Chapitre 13. 30 juin 2213. La nuit dernière, nous étions trop surexcités pour trouver le sommeil. À l'exception de Benji, qui ne pouvait comprendre. Simone lui a souvent expliqué que nous vivons à bord d'un vaisseau spatial géant, mais ce concept le dépasse. Hier, quand le sifflement a débuté, nous nous sommes regardés sans rien dire pendant plusieurs secondes. Il y avait si longtemps que nous n'avions pas entendu ce son. Puis, nous avons tous pris la parole en même temps. Les enfants avaient d'innombrables questions à nous poser. Finalement, nous montâmes tous à la surface. Richard et Cathy coururent vers la mer sans nous attendre. Je pris Ali dans mes bras et nous les imitâmes. Cathy revint à notre rencontre.
« Viens, viens !» dit-elle à Simone. « Il faut que tu vois ça. C'est incroyable. Les couleurs sont fantastiques. »
Elle n'exagérait pas. Les arcs-en-ciel de lumière qui reliaient les cornes en crépitant étaient impressionnants dans la nuit raméenne. Benji restait bouche bée face à l'hémicylindre sud. Finalement, il sourit et se tourna vers Simone.
« C'est beau !»
dit-il lentement, fier d'avoir trouvé le mot juste.
« Oui !»
lui répondit-elle.
« C'est très beau !»«
Très beau !»
répéta-t-il avant de reporter son attention sur les lumières. Nous échangeâmes peu de paroles tant que dura le spectacle, mais nous commentâmes l'événement pendant des heures une fois de retour dans notre refuge. Nous devions tout expliquer aux enfants. Simone venait de naître la fois précédente. Richard se chargea de leur fournir des explications. Ce rebondissement lui avait insufflé de l'énergie et il était redevenu lui-même. Ce fut de façon amusante et didactique qu'il raconta tout ce qu'il savait sur les sifflements, les lumières et les manœuvres raméennes.
« Tu crois que les octopodes vont regagner New York ?»
lui demanda Cathy avec espoir.
« Je l'ignore, »
avoua-t-il.
« Mais ce n'est pas à exclure. »
Elle nous narra pour la énième fois sa rencontre avec l'octopode et enjoliva comme à l'accoutumée ce récit. Surtout ce qui concernait ce qu'elle avait fait avant nos retrouvailles. Patrick adore cette histoire. Il lui demande souvent de la lui raconter.
« J'étais là, » dit-elle la nuit dernière, « couché à plat ventre, la tête penchée dans un puits qui allait se perdre dans le noir. Des tiges argentées saillaient de la paroi et je les voyais briller dans la pénombre. J'ai crié. « Hey, y a quelqu'un ?» Et j'ai entendu un gémissement. Et un son pareil à celui que ferait une brosse métallique qu'on frotterait sur le sol. J'ai vu de la lumière dans les profondeurs et une créature noire avec une tête ronde a commencé à se hisser vers moi en enroulant ses tentacules autour des barres.
« Un octopode !»
commenta Benji. Quand Cathy eut terminé son récit, Richard annonça aux enfants que dans 4 jours, le sol se mettrait certainement à trembler. Il insista pour que nous arrimions toutes nos possessions et que nous nous préparions à effectuer de nouveaux séjours dans la cuve. Une fois couché, je bavardai longuement avec lui. J'avouai espérer que la prochaine manœuvre marquerait la fin de notre voyage et lui fit remarquer qu'il semblait rétabli. Mes pensées sont pour l'instant limpides, répondit-il en se renfrognant. Mais le brouillard peut se répandre dans mon esprit d'un moment à l'autre. Dans une minute peut-être, et je ne me souviens toujours pas de ce que j'ai fait pendant mon absence.
Que va-t-il se passer selon toi ?
Rama devrait manœuvrer. Nous approchons de Sirius et notre vaisseau doit réduire considérablement sa vitesse si son but est situé dans les parages de cette étoile. Il se pencha et prit ma main dans la sienne. Pour toi, et surtout pour les enfants, j'espère que ce n'est pas une fausse alerte.
8 juillet 2213. La manœuvre a débuté voilà 4 jours, à la fin du 3e spectacle son et lumière. Nous n'avons vu ni entendu
aucun avien ou octopode, ce qui a profondément déçu Cathy. Hier, deux mantes biotes sont descendues dans notre refuge et ont transporté jusqu'à la cuve une malle contenant 5 hamacs, car Simone a grandi, et des casques pour nous tous. Nous les avons observées de loin pendant qu'elles installaient nos lits et vérifiaient les mécanismes. Les enfants étaient fascinés. Cette visite nous a confirmé les suppositions de Richard. Il a également vu juste en ce qui concerne les rapports existants entre les systèmes de chauffage et de propulsion. En surface, la température a déjà chuté. En prévision d'une longue manœuvre, nous avons utilisé l'interface pour commander aux Raméens des vêtements chauds. Les vibrations ininterrompues compliquent notre existence. Au début, notre progéniture les trouvait amusantes, mais elle s'en plaint désormais. Quant à moi, j'espère que nous sommes proches de notre destination. Et si Michael dit « Que la volonté de Dieu soit faite », mes rares prières sont plus égoïstes et précises. 1er septembre 2213. Il se produit du nouveau. La manœuvre a pris fin voilà 10 jours et nous approchons d'une source de lumière isolée distante d'environ 30 unités astronomiques de Sirius. Richard a modifié les réglages des détecteurs externes et ce point occupe désormais le centre de l'écran, quel que soit le télescope qui l'observe. Il y a 2 nuits, nous avons commencé à mieux voir ce corps céleste et supposé qu'il pouvait s'agir d'une planète. Richard s'est hâté de calculer l'apport de chaleur de l'étoile à un monde situé approximativement à la même distance que Neptune l'est du Soleil. Bien que Sirius soit plus volumineux, plus lumineux et plus chaud, il a conclu que ce lieu devait être glacial. La nuit dernière, nous avons vu plus nettement notre destination. Sa forme oblongue incite Richard à affirmer qu'il ne peut s'agir d'une planète, car un corps naturel de cette taille serait nécessairement sphérique. Or, notre but fait penser à un cigare, avec un chapelet de lumière au sommet et un autre au-dessous. Faute de savoir quelle distance nous sépare, il est impossible de calculer ses dimensions. Mais Richard a fait des suppositions en fonction de notre vitesse d'approche, et il pense que cet objet doit mesurer 150 km de long sur 50 de diamètre. Nous nous réunissons souvent dans la grande salle pour regarder l'écran. Ce matin, nous avons eu une nouvelle surprise. Cathy a remarqué 2 vaisseaux à proximité de notre but. Richard lui a appris la semaine dernière à afficher les images transmises par tous les détecteurs et pendant que nous bavardions, elle a branché le radar à longue portée utilisé 13 ans plus tôt pour repérer les missiles nucléaires lancés par la Terre. Le cigare nous est apparu décentré, avec devant lui 2 autres points. Si c'est notre destination, nous n'y serons pas seuls. 8 septembre 2213. Je ne peux décrire les événements des 5 derniers jours. Je ne connais pas de superlatif qui me permettrait d'y parvenir. Nous sommes actuellement à bord d'une petite navette automatique, pas plus grosse qu'un autobus, et nous nous éloignons de la station, qui est toujours visible, mais à peine, par le hublot hémisphérique de poupe. À bâbord, le vaisseau cylindrique qui nous a servi de foyer pendant 13 ans part dans une direction différente. Illuminé tel un sapin de Noël, il a appareillé quelques heures après nous et près de 200 kilomètres nous en séparent déjà. 4 jours et 11 heures plus tôt, Rama s'est immobilisé derrière 2 appareils en attente. Nous avions devant nous une petite étoile de mer en rotation et une roue géante qui a pénétré dans la structure en forme de cigare peu après notre arrivée. La station était entièrement creuse. Quand la roue fut à l'intérieur, des grues et des bras télescopiques se chargèrent de l'immobiliser. 3 appareils qui ressemblaient respectivement à un ballon, un dirigeable et une bathysphère y entrèrent. Ils ressortirent au cours des 2 jours suivants.
des navettes semblables à la nôtre, mais de dimensions plus imposantes, se portèrent à la rencontre de chacun d'eux. Sitôt après ce que nous supposions être un transfert de passagers, elles s'éloignèrent dans la direction opposée à notre file d'attente et les dispositifs qui immobilisaient la roue se rétractèrent pour lui permettre de quitter la station. L'étoile de mer venait de prendre sa place quand un sifflement nous invita à monter à la surface de Rama. Nous assistâmes à un spectacle très différent des précédents. Des anneaux colorés démesurés se formaient autour de l'extrémité de la grande corde, puis partaient lentement à la dérive vers le nord en suivant l'axe de rotation du cylindre. Richard estima leur diamètre à plus d'un kilomètre et leur épaisseur à une quarantaine de mètres. À trois reprises, huit cercles illuminèrent simultanément la nuit raméenne dans un ordre immuable, rouge, orange, jaune, vert, bleu, marron, rose et pourpre. Sitôt que l'un d'eux disparaissait à proximité de la station Alpha, au nord, un remplaçant de même couleur apparaissait dans la cuvette australe. Nous restions bouche bée. Dès la fin de la troisième série, tout l'intérieur de Rama s'illumina alors que la nuit était tombée seulement 3 heures plus tôt et que depuis 13 ans, le cycle diurne-nocturne avait été immuable. De la musique s'ajouta à la lumière, s'il est possible d'appeler cela de la musique. Il nous semblait que des millions de clochettes tintaient simultanément de toutes parts. Puis Richard, qui disposait des jumelles les plus puissantes, vit quelque chose approcher dans le ciel. « Les aviens !» s'écria-t-il. « Et je viens brusquement de me souvenir que je leur ai rendu visite dans le nid qu'ils ont au nord pendant mon odyssée. » Nous nous passâmes l'instrument d'optique, et une cinquantaine de points devinrent progressivement de grandes créatures ailées qui volaient vers New York. La moitié restèrent dans le ciel, à environ 300 mètres au-dessus de l'île, pendant que les autres piquaient vers leur nid. « Viens, papa !» cria Cathy. « Allons voir !» Je n'eus pas le temps de protester, qu'il s'éloignit en courant. Simone et Benji repartirent vers notre refuge. Les aviens inquiétaient Patrick.
« Vont-ils faire du mal à papa et à Cathy ?»
demanda-t-il. Je souris à mon fils de 5 ans.
« Non, mon chéri, » lui répondis-je. « Pas s'ils sont prudents. »
Michael, Patrick, Ali et moi regagnâmes notre foyer pour observer l'étoile de mer immobile à l'intérieur de la station. Les sas de cet appareil s'ouvraient du côté opposé, mais une opération de débarquement devait être en cours, car 5 navettes en repartirent. Son déchargement fut rapide, et il était déjà ressorti quand Cathy et Richard nous rejoignirent.
« On fait nos bagages !» annonça-t-il le souffle court. « nous partons tous !»
« Si tu les avais vus, » disait Cathy à Simone, « ils sont énormes et très laids. Ils sont descendus dans leur nid. »
« Les aviens sont revenus chercher divers objets, » précisa Richard. « Peut-être des souvenirs. Tout indique que nous allons partir d'ici. »
Je m'empressais de ranger les choses de première nécessité et me reprochais de ne pas m'être attelé plus tôt à cette tâche. J'aurais dû le prévoir. Nous avions assisté au déchargement de la roue et de l'étoile de mer, mais il ne nous était pas venu à l'esprit que nous devrions débarquer, nous aussi. Nous ne savions quoi emporter. Nous avions vécu 13 ans dans ces 6 pièces et commandé chaque jour une moyenne de 5 articles raméens par l'entremise du clavier. La majeure partie avait été mise au rebut, mais comme nous ignorions tout de notre destination, nous ne pouvions dresser la liste de ce dont nous aurions besoin.
« Connais-tu le programme ?» demandai-je à Richard.
Il cherchait un moyen de transporter son gros ordinateur qu'il me désigna avec irritation.
« Notre histoire, notre science, ces mémoires contiennent toutes nos connaissances. »
L'appareil ne pesait pas moins d'un quintal, et je lui proposais de l'aider à l'emporter lorsque nous aurions emballé nos vêtements, nos affaires personnelles, de la nourriture et de l'eau.
« Sais-tu où nous allons ?
insistai-je.
Il haussa les épaules.
Je n'en ai pas la moindre idée, mais je parie que nous ne sommes pas au bout de nos surprises.
Cathy entra avec un petit sac, les yeux brillants.
Je suis prête,
annonça-t-elle.
Je peux aller attendre là-haut ?
À peine son père eut-il esquissé un hochement de tête, qu'elle déguerpit.
J'adressai un regard de reproche à Richard, puis allai aider Simone.
Faire les bagages des garçons ne fut pas facile. Dépassé par les événements, Benji était agité et Patrick bougon.
Simone et moi venions de terminer nos préparatifs quand Cathy et Richard revinrent de la surface.
« Un taxi nous attend », annonça-t-il.
« Il s'est posé sur la glace »,
précisa Cathy en retirant sa lourde veste et ses gants.
« Comment savez-vous que c'est le nôtre ?»
s'enquit Michael, qui était entré derrière eux.
« Il a 8 sièges et de la place pour nos bagages »,
expliqua ma fille de 10 ans.
« Avez-vous vu des octopodes ?»
demanda Patrick.
« Octopodes ?»
répéta laborieusement Benji.
« Non,
répondit leur sœur.
« Mes 3 énormes appareils aériens aux ailes énormes sont passés au-dessus de nos têtes. Ils allaient vers le nord et nous avons pensé que les octos devraient être à leur bord. Pas vrai, papa ?»
Richard hocha la tête et j'inspirai profondément.
Alors en route, nous allons tout d'abord emporter nos sacs. Richard, Michael et moi redescendrons ensuite récupérer l'ordinateur.
Une heure plus tard, nous étions tous à bord du véhicule. Richard enfonça une touche rouge clignotante et l'engin décolla à la verticale. Nous nous élevâmes lentement, puis à proximité de l'axe de rotation de Rama, là où la gravité et l'atmosphère étaient presque inexistantes, l'appareil s'immobilisa pendant que sa géométrie variait. Ce qui nous permit de contempler une dernière fois Rama. Des kilomètres en contrebas, l'île n'était plus qu'une petite tache gris-brun au centre de la mer annulaire gelée du cylindre géant. Au sud, je voyais distinctement les cornes, d'énormes pics renforcés par des arcs-boutants massifs pointés vers le nord. Notre taxi se remit en mouvement et une étrange mélancolie m'envahit. Rama était mon foyer depuis 13 ans et j'y avais mis au monde 5 enfants. Je n'eus pas le loisir de méditer sur mon passé, car sitôt qu'il eut changé de forme, notre véhicule accéléra le long de l'axe médian et atteignit très rapidement le moyeu nord. Moins d'une heure plus tard, nous avions embarqué à bord de cette navette et étions sortis de Rama. La pensée que je ne retournerai jamais dans ce monde artificiel me fit essuyer quelques larmes.